France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
La littérature est un parfait transport dans le temps. On peut être né en 1989 et signer au plus près des sensations un livre sur l'Angleterre victorienne de la fin du 19e. La vie nouvelle est le titre du premier roman de Tom Crewe. Il a rencontré bien des lecteurs et lectrices et l'enthousiasme de la critique à New York et à Londres. Donc nous profitons de son passage à Paris pour parler de ce texte qui dépeint le mouvement décadent, les aspirations sexuelles et intellectuelles de toute une partie de cette société qui désirait voir chuter le vieux monde et ses idées. Tom Crewe est notre invité. Vers 15h50, changement de décor total. Tous les mercredis, Mathilde Wagman nous parle de la littérature à destination des plus jeunes. Aujourd'hui, c'est le grand retour des chiens pirates. Et en fin d'émission, vos trouvailles de lecture nourrissent notre grand jeu des pages musicales. C'est donc grâce à vous qu'on se quitte en texte et en chanson. Vous avez le programme, on est ensemble pour une heure. Bienvenue à toutes et à tous dans le Book Club. Bonjour Tom Crewe.
Bonjour.
Votre roman La vie nouvelle a paru aux éditions Bourgois dans une traduction d'Étienne Gomez. Bienvenue à vous dans le Book Club et bonjour Marguerite Capel.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là pour assurer l'interprétariat vers le français. Alors je ne sais pas Tom Crewe si vous avez déjà fréquenté un book club, mais en tout cas dans notre book club, on commence toujours par se présenter en tant que lectrice et en tant que lecteur. Donc on va faire ça, on va faire ce questionnaire lecture avec vous. Est-ce que vous vous souvenez où et quand vous avez appris à lire ?
Je ne me souviens pas du moment où j'ai vraiment appris à lire pour la première fois. Mais on me dit qu'avant même de savoir lire, j'étais capable de répéter à voix haute les livres que me lisaient mes parents. Je connaissais les mots par cœur, sans même regarder le livre, je pouvais mémoriser en fait le texte. Donc mes parents étaient assez impressionnés. Mais je me souviens que le premier livre que j'ai lu, c'était Le Hobbit de Tolkien, et je le lis avec mon père. On le lisait ensemble chaque soir. Et un soir, il ne pouvait pas être avec moi, et je me souviens qu'il m'a dit « Je ne peux pas être là ce soir ». Alors j'ai demandé « Mais comment est-ce que je vais faire pour lire le livre ?» Il m'a dit « Tu vas devoir te débrouiller tout seul ». Et je me souviens encore de cette sensation. J'ai encore l'image en tête de ce livre entre mes mains, la première fois où j'ai lu seul. Je pourrais vous dire de quel passage il s'agissait, je pourrais vous dire ce qui se passait à ce moment-là dans le roman. C'est vraiment quelque chose qui restait gravé dans ma mémoire.
C'est extrêmement émouvant de décrire comme ça l'espèce de saut dans le vide que constitue la lecture tout seul pour la première fois pour un enfant. Mais Tom Crewe, puisque vous évoquez la période qui précède le moment où vous êtes capable de faire ce saut dans le vide. Est-ce que ça décrit peut-être déjà un rapport de l'enfant que vous étiez, de l'être que vous étiez, avec les mots, avec le langage, avec les histoires ?
Je ne sais pas. J'étais un très gros lecteur. Dès que ça a démarré, je lisais beaucoup. Mes souvenirs les plus anciens, c'est d'être assis avec un carnet et d'écrire des histoires moi-même, d'essayer de raconter des histoires. Et j'ai ces carnets, ma mère les a gardés, ils sont toujours chez moi. Ça remonte sans doute à ce moment avec le Hobbit, c'est vraiment ce saut dans le vide. Effectivement, j'ai toujours été enthousiasmée par la possibilité que représentait une page blanche et l'idée que moi je pouvais remplir cette page blanche avec une histoire inventé par moi. C'est quelque chose qui m'est toujours resté. Cette sensation extrêmement puissante d'être capable de créer. Et j'ai toujours voulu faire ça. J'ai un manuel scolaire de l'époque de mes 6 ans et il y a une question dans le manuel, dans le cahier que j'ai rempli qui demandait qu'est-ce que vous voulez faire comme métier. Et à 6 ans, j'ai écrit « Je veux être auteur ».
It's been there that long. I can't really explain.
Donc c'est là depuis tout ce temps-là. Je ne peux pas vraiment l'expliquer.
It's been the meaning of my life.
Mais je crois que c'est vraiment ce qui donne son sens à ma vie d'essayer de devenir écrivain.
Quand vous grandissez, Tom Crewe, j'imagine que vous bougez en tant que lecteur. Est-ce que vous vous souvenez d'un passage un peu plus important qu'un autre où vous auriez changé d'identité en tant que lecteur ? Vous auriez découvert un nouveau territoire de littérature ?
Je me souviens de la première fois où je suis allée au-delà des lectures classiques d'un jeune garçon ou d'un jeune adolescent. Et où je me suis dit qu'il fallait que je lise quelque chose de plus sérieux. En fait, mon père m'a offert pour mon anniversaire, je pense que c'était mon 10e anniversaire, donc sans doute un peu plus tôt que ce que je croyais, un livre et même un recueil d'histoires de P.G. Woodhouse, qui est un écrivain comique britannique très connu. Et j'ai été complètement transporté par ses récits. Je crois que c'était ma première rencontre avec un style littéraire, avec une langue qui n'était pas celle de mon époque. La plupart de ces livres ont été écrits dans les années 20, 30, 40. Et je crois que ça a même modifié ma manière de parler à la maison. Je me suis retrouvée à parler comme un personnage de P.G. Woodhouse. Donc je crois que c'est à ce moment-là, mon rapport à la langue a changé. Vu aussi les plaisirs plus sophistiqués que la lecture pouvait offrir, au-delà de l'excitation, de l'action, cette idée de la comédie, cette idée du jeu de mots, cette délicatesse et cette légèreté de la langue.
Dans votre roman, Tom Crewe, les personnages partagent un certain goût pour la poésie, notamment la figure de Walt Whitman. Est-ce que c'est quelque chose que vous lisez aussi ? Est-ce que ça occupe une place importante dans votre bibliothèque ?
Here's an embarrassing admission. I'm not very good at reading poetry.
C'est un aveu un peu embarrassant.
Non, il faut y aller, il faut dire
pas très bon pour la poésie.
I actually find poetry. It might be something to do with my pride.
En fait, je crois que la poésie, c'est peut-être quelque chose par rapport à mon orgueil de lecteur et d'écrivain. Comme je n'ai pas lu de poésie enfant et adolescent, je suis frustrée parce que je ne comprends pas tout de suite. Je bloque sur un vers ou sur une image compliquée ou sur un rythme, et quand je ne peux pas le saisir immédiatement, c'est quelque chose qui m'arrête et qui m'empêche de rentrer complètement dans un texte comme je le fais avec un roman.
One of the interesting things is that I did end up writing a novel.
Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que j'ai fini par écrire un roman qui contient beaucoup de poésie. Mais j'ai réussi à tirer ce qui était pertinent pour les personnages et pour le récit sans avoir l'impression de devoir devenir expert moi-même. Même si je me suis rendu compte que j'appréciais Walt Whitman bien davantage qu'au début de l'écriture du roman.
Est-ce qu'il y a un livre aujourd'hui que vous auriez aimé peut-être offrir au jeune homme que vous étiez à 20 ans?
Je me demande si j'aurais aimé recevoir en cadeau un livre en particulier. Quand j'étais adolescent, peut-être un livre plus explicite sur la vie homosexuelle ou le désir homosexuel, à une époque où j'étais complètement renfermée sur moi-même et je ne me reconnaissais pas moi-même, je ne reconnaissais pas ma propre sexualité. Je grandissais dans une époque qui était très homophobe en Angleterre, moins qu'avant, mais néanmoins toujours beaucoup, en particulier à l'école. Il y avait beaucoup de harcèlement, beaucoup de stéréotypes.
Et
je crois que j'ai eu du mal à trouver une image à laquelle m'identifier. Quelqu'un qui me ressemblerait et qui peut-être mènerait une vie qu'un jour je pourrais vivre aussi. Donc j'aurais adoré recevoir un livre, par exemple, d'Alan Hollinghurst, quelque chose qui me montre l'existence homosexuelle en Angleterre avec de l'humour, avec une forme de délicatesse, avec une belle langue. Qui montre cette sexualité et l'homosexualité d'une manière légère et amusante, et qui montre que ça pouvait être une vie amusante et de plaisir. Je pense que ça m'aurait beaucoup aidé.
Il est beaucoup question de ça, transposé à un autre siècle dans votre roman, Tom Crewe, de la manière dont les livres peuvent ou non bouger la vie des gens. Mais si on essaye de préciser ça un petit peu, qu'est-ce que ça fait de reconnaître son cœur, ses émois, son corps, sa sexualité, éventuellement ses paysages dans un texte? Vous avez dit que vous avez décrit ce que ça faisait de ne pas le reconnaître, mais quand on le trouve, qu'est-ce que ça produit ?
I suppose it's like a
J'imagine que c'est comme si la lumière s'allumait dans une pièce vide, ou peut-être d'ailleurs dans une pièce qui n'est pas vide, mais qu'on ne voyait pas jusque-là. D'un seul coup, la lumière s'allume, et on voit sa vie dans un contexte nouveau, dans une nouvelle relation. On voit le rapport entre les différents événements de sa vie, entre les différentes personnes qui la peuplent, et on arrive à trouver une forme d'unité dans son existence parce qu'un sens lui a été conféré par ce qui est venu de l'extérieur, qui est cette lumière, qui est ce texte. Et je crois que c'est crucial. Et ça peut vraiment vous permettre d'émerger de cette obscurité et d'entrer dans un espace de savoir. Et c'est tellement crucial au 19e siècle. Récemment, j'ai découvert que des hommes gays écrivaient à Émile Zola en lui demandant d'écrire un roman sur un personnage homosexuel. Ils avaient envie d'être représentés, de se voir représentés dans cette existence contemporaine. Et pour ce grand romancier qui voulait tant décrire la société, ils avaient envie que lui aussi montre qu'il faisait partie de cette société. Et Zola n'a pas été capable de le leur offrir, mais c'est quelque chose qui s'est produit depuis. Nous nous voyons, nous sommes réintégrés dans la société en lien avec les autres. Et c'est ce qui nous donne une place.
Est-ce qu'il y a des livres, Tom Crew, des œuvres littéraires que vous n'avez pas encore lues, mais dont vous êtes absolument persuadé que ce serait un rendez-vous pour vous, que vous auriez quelque chose de précieux à y trouver? Des livres que vous voyez de loin?
Encore un aveu assez gênant que je fais en direct à la radio. Je n'ai jamais lu Ulysse de Joyce.
Ulysses de Joyce, mais en revanche avoir peut-être ingéré des bouts ou des éclats de ce qu'a produit Ulysses de Joyce dans d'autres livres. Je trouve que c'est rare de le raconter de cette manière-là, c'est que parfois on peut quand même être irradié par un texte qu'on n'a pas lu.
I think that's true, and I think I often have the
feeling that I almost don't want to read a famous book because the pressure around it has built up too much. Un livre trop connu parce qu'il y a trop de pression.
Compulsion that you must appreciate.
Il y a trop d'injonction à l'apprécier, à le trouver bon, à trouver que c'est excellent. Parce qu'il y a une importance historique à l'œuvre. Et ça peut être très intimidant et on peut se révolter contre cette idée. On peut dire, je n'ai pas envie qu'on me force à apprécier ce livre. Mais souvent, je me rends compte que finalement, quand on lit le livre, bon, on voit bien qu'il y a une raison pour laquelle les gens vous ont dit de le lire. C'est peut-être un résultat productif justement de cette résistance, de cette tentative d'évitement. Parfois, on trouve son propre chemin. Et on évite justement d'être trop influencé.
Est-ce qu'il existe une photographie de vous en train de lire?
Oui, il doit y en avoir beaucoup, parce que j'ai passé toute mon enfance sur le canapé à lire un livre. Et mes parents me disaient
c'est comme si je
fermais les oreilles et les écoutilles et j'étais plus du tout atteignable. Les gens parfois devaient agiter la main devant moi, me parler pour essayer de briser cette concentration qui ressemblait presque à une transe. Il y a sans doute beaucoup de photos et j'ai sans doute jamais su qu'elles avaient été prises.
On va évoquer votre livre La vie nouvelle, Tom Crew, paru aux éditions Bourgois, traduit de l'anglais par Étienne Gomez, juste après cette chanson de King Cruel.
And hate runs through my blood. Well, my tongue was in love, but my heart was left above. I've got to be leaving now. I thought I'd never be shut down, but girl, I'm black and blue, so beaten down to you. Well, I'd be turned down in blue. Don't break away. I waste away. Don't break away. And lay me out across the grave. I wish I should have kept her, babe. Well, I had no chance to get away. I can't escape my own escape. Even more when it's sweet to the taste. Restless lead sense astray. I look up and seek for fate. I'm a girl, just lean over and say, who lay me down? Who pull me out? Who take my crown again? Who she's merged in doubt? Wait, I'll make my last request. See, this could be the best. By blue, I need to rest. See, I've been broken down. So much has lost it now. I just stop and say, girl, ooh, don't you worry about a thing, baby.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Est-ce qu'un livre peut modifier en profondeur la société dans laquelle il s'écrit, modifier la société dans laquelle il se lit ? Dans votre premier roman, Tom Crewe, on assiste à la naissance d'une œuvre littéraire dans l'Angleterre de l'époque victorienne. On saisit au plus profond, au plus sensible, ce que ce projet littéraire porte de plus large que lui. Penser la sexualité à nouveaux frais, la détacher de la reproduction humaine, la sortir de la seule conjugalité, penser contre la pénalisation de l'homosexualité, bref, en finir avec une ancienne vision du monde, nouvelle éthique, nouvelle économie, nouvelles mœurs, nouveau siècle, vie nouvelle. Un brouillard baigne le texte comme si l'avènement de ces changements devait venir de là, d'une période trouble où l'on n'y voit plus très clair. Alors bien entendu, le livre embrasse totalement l'ambition romanesque, mais des figures historiques comme celle du poète de Walt Whitman, on en parlait tout à l'heure, ou celle du romancier Oscar Wilde, condamné à 2 ans de travaux forcés pour son homosexualité en 1895, apparaissent et font le lien avec la discipline historique dont vous êtes par ailleurs familier. La vie nouvelle apparue aux éditions Bourgois, on continue d'en parler, elle parut dans une traduction d'Étienne Gomez, et c'est toujours Marguerite Capelle qui assure l'interprétariat. Peut-être parlons de ce livre, de ce titre, pardon, Tom Crewe, qui, moi, évidemment, m'a aussi fait penser à un livre de Dante. Comment est-ce que vous avez choisi ce titre-là et qu'est-ce qu'il recouvre, quel élan il porte ?
Au départ, le livre avait un autre titre pendant longtemps. Il s'appelait Inversion, qui était ce terme du 19e siècle pour parler de l'homosexualité. J'aimais bien ce titre parce que ça parlait justement des enjeux, des relations de mon livre, puisqu'il s'agit de deux mariages qui sont au cœur du roman. Et ces deux mariages sont des versions inversées, des miroirs l'un de l'autre. Il y a un mariage avec un homme hétérosexuel qui est marié à une femme lesbienne. Et de l'autre côté, on a un homme homosexuel qui est marié à une femme hétérosexuelle. Et donc il y a une forme de symétrie. Et ça a été quelque part peut-être un premier point d'entrée dans le sujet au travers de ces deux mariages. Donc j'avais le sentiment que cette idée d'inversion saisissait bien cette relation entre les deux couples. Et puis en fin de compte, je me suis rendu compte que ça ressemblait trop à Inception, le titre du film, que ça faisait un peu science-fiction. D'autres personnes trouvaient que ça avait l'air un peu négatif. Bien sûr, il y a l'idée de cette vie nouvelle qui traverse le roman. Il y a d'ailleurs une société politique qui s'appelle La Vie Nouvelle et qui s'engage justement pour essayer de trouver un nouveau mode de vie pour renouveler, régénérer la société en régénérant et en changeant l'individu. D'une certaine manière, le livre est plein de questions, beaucoup plus vastes, beaucoup plus générales sur ce que ça signifie d'essayer de vivre différemment dans votre société. Est-ce que ça peut signifier aussi de changer votre société ? Donc à la fin, je me suis dit que La Vie Nouvelle paraissait un titre beaucoup plus vaste, plus englobant et aussi peut-être plus optimiste, qui peut-être pouvait saisir aussi cet esprit utopiste du passé et rapporter un peu de cette utopie dans le présent, peut-être.
Tout à l'heure, Tom Cruise, vous nous disiez qu'à un devoir d'école, vous répondiez dès l'âge de 6 ans vouloir devenir auteur. Ici, c'est votre premier roman, donc il y a du temps qui s'est écoulé entre cet âge de 6 ans et le moment où vous le publiez. Comment est-ce qu'il est né ou comment est-ce qu'il s'est cristallisé, peut-être le début de l'écriture ou le début du roman, la scène d'ouverture est magnifique, c'est une scène à une charge sexuelle très importante, mais on est tout de suite plongé dans une langue qui est la vôtre et qui nous tient de bout en bout. Comment vous y arrivez à ce texte ? J'ai envie de dire enfin.
I was a historian. I did a PhD in history.
J'ai fait une thèse en histoire.
For a while, I thought maybe I would be
an
academic.
Pendant un moment, j'ai pensé que j'aurais une carrière universitaire.
Long-held ambition to write a novel.
Et puis cette ambition que j'avais depuis si longtemps d'écrire un roman est revenue, s'est réaffirmée, et je me suis dit qu'il fallait que j'essaie.
And one of the things I quite quickly decided I would
et
like
une des décisions que j'ai prises très rapidement, c'est que j'avais envie d'écrire sur l'expérience que c'était de vivre en tant qu'homosexuel à la fin du 19e siècle. J'avais découvert ce personnage de John Addington Symonds, qui est l'inspiration du personnage de mon roman, John, qui était une sorte de proto-militant pour les droits gays dans les années 1890, quelqu'un qui était prêt, qui osait défendre la légalisation de l'homosexualité, mais aussi défendre l'idée que l'homosexualité était naturelle et inoffensive et qu'elle devrait être acceptée aussi bien socialement que d'un point de vue juridique. Quand je suis tombée sur ce personnage, ça a ouvert un monde pour moi qui était l'histoire homosexuelle à la fin du 19e sans Oscar Wilde. Oscar Wilde n'était nulle part. Et ça m'a
fascinée.
Parce qu'on aime bien avoir la chute tragique d'Oscar Wilde comme vraiment seul point focal de cette histoire. On l'a laissé dominer cette histoire, ce qui lui est arrivé. Et c'est le seul personnage dont les Anglais connaissent le destin. Et je voulais voir ce qu'on pouvait justement voir si on déplaçait Oscar Wilde et qu'il n'était pas au centre. J'essayais de trouver une approche de ce sujet qui permette de montrer qu'il y avait en réalité beaucoup d'optimisme à l'époque. Que ces gens pensaient pouvoir faire évoluer la loi, pensaient pouvoir changer la société. L'homosexualité venait d'être légalisée en Italie, elle l'était déjà en France, beaucoup plus largement. Ces gens n'étaient pas fous et ils voyaient bien que ça pouvait se produire ailleurs en Europe, alors pourquoi pas chez eux ? Et donc j'avais envie d'utiliser cette tension dramatique entre cet optimisme et ce qui est arrivé à Oscar Wilde. La manière dont ce procès en fait a complètement éradiqué l'optimisme et a modifié la situation. Je voulais montrer ces deux forces, l'optimisme et la tragédie, montrer leur rencontre et leur affrontement et l'énergie dramatique. Elle vient de là.
Et comme je l'ai dit tout à l'heure, je me suis rendu compte que je pouvais raconter cette histoire à travers la relation entre ces deux couples, entre ces deux hommes qui écrivent un livre sur l'homosexualité, que ça me permettrait d'explorer le sujet par ces outils-là. Et le premier chapitre et la scène de sexe, c'est la première que j'ai écrite, en fait. C'est les premiers mots que j'ai écrits. Ça semblait parfait pour nous faire entrer dans l'esprit d'un homme homosexuel qui ne s'assume pas à l'époque, qui vit dans le secret, montrer en fait tous ses fantasmes et la réalité froide de son réveil dans son lit marital. Et cette obligation de vivre sa vie dans le secret.
Et justement, c'est ça qui nous accueille de cette manière-là dans votre texte, Tom Cruise, c'est que à la fois on est du côté d'un combat, et on va revenir dans un instant, on est du côté de la loi, on est du côté de la littérature, de la société, aussi de la fin d'un siècle en Angleterre, mais on est profondément du côté de la sensation, que tout cela se vit, se construit avec des corps qui sentent, qui vivent des choses, avec des cœurs qui battent. Jamais vous ne découplez les choses, toujours vous montrez que s'il y a un virage sociétal qui va être pris, ce sera aussi lié avec des humeurs, des émois, des désirs et des déceptions.
Je crois que
quand on regarde le passé, on pense souvent aux facteurs extérieurs. On pense à ce que portaient les gens, on pense aux bâtiments, on pense à l'art, on pense aux livres. On pense rarement le passé par le biais du corps. On pense rarement le passé comme quelque chose d'habité par des personnes incarnées dans des corps identiques aux nôtres et qui partagent nos aspirations, nos désirs et nos envies. Et parce que c'est un roman qui parle de personnages qui essaient de comprendre et d'accepter leurs désirs, qui essaient de voir ce qu'on fait du désir quand la société ne nous autorise pas à l'exprimer, c'était logique de partir du corps, d'écrire à partir du corps vers l'extérieur. Parce qu'il n'y a que là savoir ce que ça signifie, ce que ça a pu signifier d'habiter ainsi un corps sans pouvoir s'exprimer, ce qui était le cas dans le passé. Et c'est en suivant ces énergies, là où elles vont, qu'il faut bien qu'elles s'expriment quelque part. C'est comme ça que le romancier prend vie et est animé justement par le suivi de ses désirs et de ses aspirations.
Vous parliez tout à l'heure de la relation entre John et Henry qui se lancent dans un projet. C'est cette relation qu'a voulu interroger notre auditeur. Noé, il se pose la question de la place qu'on peut ou qu'on doit prendre dans un combat. On l'écoute.
Bonjour le Book Club, bonjour Tom Cruise. Merci beaucoup pour votre livre qui m'a particulièrement touché. J'ai trouvé que ce livre était un très bel hommage aux luttes qui ont pu exister et qui existent toujours. J'ai été beaucoup touché par le personnage de Henry qui, à travers sa timidité, cherche à éviter le conflit, à rester dans l'ombre autant que possible. Et pourtant, Henry décide d'accompagner John dans ce combat qui, à son époque, était le sujet le plus brûlant, le plus dangereux pour lui. Et à travers l'histoire du livre, on se pose la question de pour qui Henry se bat réellement. Est-ce qu'il se bat pour la société? Est-ce qu'il se bat pour lui-même? Est-ce qu'il se bat pour Edith? Et cela m'amène à me questionner sur la légitimité des luttes. Faut-il être toujours directement concerné par un sujet pour y prendre part? Merci beaucoup.
Merci à vous, Noé, pour cette question que je transmets immédiatement à Tom Cruise. Comment est-ce que vous recevez cette lecture de la place du personnage de Henry dans votre roman?
Henry is a difficult character.
Henry est un personnage difficile. Il est très timide, il est très nerveux, il trouve difficile de parler, de regarder les gens dans les yeux. Et il était difficile à écrire. Parce qu'un personnage qui s'exprime mal, c'est très difficile de lui donner vie sur la page. Et je voulais qu'il y ait une forme d'ambiguïté sur son investissement dans ce projet d'écriture d'un livre sur l'homosexualité. je pense que votre auditeur a tout à fait raison. Il y a différents facteurs qui jouent. Et bien sûr, il est tout à fait pertinent, même si Henry ne l'admet pas tout à fait, que sa femme soit lesbienne.
To understand her feelings for another woman.
Il se bat pour essayer de comprendre les sentiments qu'elle a pour une autre femme. Il se bat pour essayer de les intégrer dans son propre mariage. Il essaie peut-être de mieux la comprendre en essayant de comprendre la question de l'homosexualité. Mais il a aussi envie de comprendre beaucoup plus largement le sexe. Malgré le fait qu'il soit très timide, c'est un intellectuel extrêmement audacieux. Et il veut trouver le moyen de libérer le sexe de la honte. Il veut que les gens puissent aborder le sexe comme quelque chose dont on peut profiter sans culpabilité, sans regret. Quelque chose qui contribue à leur bonheur.
And because he wants to show that that means that sex doesn't have to always be to do with having children.
Le sexe n'est pas forcément toujours lié, évidemment, au fait d'avoir des enfants, que le sexe peut avoir bien d'autres facettes qui n'ont rien à voir avec la reproduction ou avec la pénétration, d'ailleurs.
Help you be a happier person.
Il veut montrer qu'il y a toutes sortes de formes d'activités sexuelles qui peuvent vous rendre plus heureux. Et donc on voit bien que même si ce n'est pas la cause d'Henri, la question de l'homosexualité, pour Henri, elle ouvre ce débat.
It's a kind of sex which will not produce children.
Parce que c'est un type de relation sexuelle qui n'est pas reproductive. Il n'y aura pas d'enfants, et donc si on peut rendre ça légitime, acceptable, dans ce cas-là, toute forme de vie sexuelle est possible. Et ça signifie, dans ce cas-là, qu'en suivant ses instincts, on peut être plus heureux, sans culpabilité, sans stress. Et donc, c'est ce qui contribue à son grand projet.
Mais ça ne veut pas dire que lui et John
ne signifie pas que John et lui soient toujours complètement d'accord. À vrai dire, parce que Henri aborde ce projet justement avec un point de vue beaucoup plus large, un angle de vue beaucoup plus large, ça pose des problèmes entre eux, parce que John a des ambitions et des idées différentes.
Et ces dissensions éventuelles, ces discussions, Tom Cruise, vous les faites apparaître dans la correspondance. Vous montrez combien un livre peut être, un livre qui s'écrit peut être au cœur de la relation, comme étant un endroit de parole, un endroit de dialogue, un endroit pour parfois se comprendre ou ne pas se comprendre. On écoute un extrait de cette correspondance.
Dover Mansions, Brixton, 28 juillet 1894. Cher Monsieur Addington, hier soir, à l'Empire, j'observais une nouvelle compagnie d'acrobates quand l'idée m'est venue d'une collaboration avec vous dans une étude sur l'inversion sexuelle. Il s'agit d'un sujet qui s'est chargé d'un intérêt croissant pour moi, notamment parce que j'ai pu constater divers degrés d'inversion chez des personnes de ma connaissance ou dont j'ai entendu parler, pour lesquelles j'ai de l'amitié ou du respect. Vos lettres ont encore ajouté à cet élan. L'attitude de la loi, que je ne comprends toujours pas sous tous ses aspects, me paraît très certainement injurieuse. Votre fidèle, Henry Ellis. 11 Gloucester Terrace, Paddington. 6 août 1894. Cher Monsieur Ellis, si nous pouvions collaborer à la rédaction d'une étude impartiale et réellement scientifique de l'inversion, j'en serais très heureux. Je pense, comme vous sans doute, qu'il vaut mieux que celle-ci soit de la main de deux hommes plutôt que d'un seul, dans l'état actuel de l'opinion publique. Et je crois véritablement que c'est un domaine dans lequel les pionniers, en plus de rendre un excellent service à l'humanité, pourront se parer des lauriers des découvreurs et des chercheurs de vérité.
On consacre le Book Club sur France Culture à votre livre La Vie Nouvelle, Tom Cruise, paru aux éditions Bourgois. On vient d'entendre deux petits extraits de deux lettres que s'échangent John et Henry. On entend bien qu'il y a une forme de mission. C'est vraiment très important, l'idée de rendre service à l'humanité. Un petit peu plus haut dans d'autres lettres, il est aussi question des livres qu'on doit mettre dans la main des jeunes hommes, des jeunes filles. Il y a une foi dans la littérature, Tom Cruise, qui anime cette société particulière de l'Angleterre à la toute fin du 19e siècle. Est-ce que c'est aussi
un livre qui parle de ça, de la place de la production intellectuelle dans une société qui, en tout cas, a des aspirations au changement.
Yes, John and Henry.
Oui, John et Henry sont tous les deux convaincus qu'ils vivent dans une société qui réagira, répondra de façon positive à des arguments rationnels, que s'ils présentent les faits, s'ils présentent le récit de vie de ces hommes homosexuels et qu'ils demandent aux gens d'y réfléchir sincèrement, d'écouter l'argumentaire, d'écouter ces témoignages personnels. Ils ne pourront que voir que la cause est juste. C'est une croyance, une conviction très noble. Mais le problème, c'est que dans le roman, ils se rendent compte, en particulier après le procès d'Oscar Wilde, que la société n'est pas si rationnelle que ça. Il n'y aura pas forcément de public réceptif pour leur livre, que peut-être les gens n'ont pas envie d'entendre. Pas envie d'écouter. Et c'est ce qui les pousse à discuter de ce qu'ils veulent faire pour voir advenir le changement qu'ils souhaitent.
Il est beaucoup question dans votre roman, Tom Crew, du rapport entre le côté illégal, le côté amoral, le côté juste ou injuste. Toutes ces questions sont des questions, en effet, qui dépassent largement, en fait, la seule situation de l'Angleterre de la fin du 19e. On sent que le roman adresse ces questions et presque nous les adresse aussi au présent. J'ai pas rebondi tout à l'heure sur la question de notre auditeur Noé qui disait la place à prendre dans la légitimité des luttes, mais d'un seul coup, évidemment, ça prend une couleur toute contemporaine rapportée à des luttes qui pourraient être menées aujourd'hui. Mais vous mentionniez votre travail d'historien, Tom Crew. Quelle place a tenu la documentation sur les textes de loi de l'époque, la façon dont c'était discuté? Quelle place ça a tenu dans le temps de l'écriture romanesque ou en amont ou pendant l'écriture romanesque?
I did a good amount of research before.
J'ai fait beaucoup de recherches avant l'écriture du roman, avant que ça ne commence.
I certainly had to understand the legal framework.
J'ai dû comprendre le cadre juridique. J'ai dû comprendre aussi la pensée médicale et scientifique de l'époque sur l'homosexualité. Mais par ailleurs, j'ai dû aussi aborder ce sujet de manière entièrement imaginaire. C'est-à-dire qu'à un moment, il a fallu que j'abandonne, que je laisse tomber les recherches et que je laisse aussi les faits de côté de manière à accéder à une vérité émotionnelle plus grande. Mais il y a aussi toutes ces questions politiques plus vastes. Je voulais essayer de montrer les complexités d'une prise de position comme celle de John et d'Henry, comme vous l'avez dit. Qui est la personne légitime pour adopter ce type de position? Est-ce qu'il faut aller vite, être audacieux ou au contraire être tactique et aller lentement? Est-ce qu'il faut prêter attention à la société telle qu'elle est? Est-ce qu'il faut travailler son message de manière à ce qu'il puisse parler aux préjugés tels qu'ils existent? Ou est-ce qu'il faut au contraire attaquer frontalement cette société avec ces nouvelles idées audacieuses pour complètement changer les idées et les opinions des gens directement? C'est aussi un roman qui parle de ça, de la tactique, de la stratégie. Et j'espère que c'est ça aussi qui le rend pertinent pour aujourd'hui, parce que je pense qu'on pourrait avoir cette discussion aujourd'hui sur la justice sociale, ou la justice raciale, ou la justice climatique. Comment atteindre ce monde meilleur que la plupart d'entre nous désirons? Est-ce qu'on le fait en se changeant nous-mêmes, en tant qu'individu, ou en ciblant les politiques et l'État? Est-ce qu'on crée de grands mouvements politiques et sociaux? Ce sont des questions qu'on doit se poser tous les jours.
The novel is about the 1890s, but it's also about.
Et c'est pour ça, j'espère, en tout cas, que le roman parle du 19e siècle, mais il parle aussi de la vie en 2023.
Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que vous placez toutes ces questions-là à l'intérieur des personnages, dans leur psyché, dans leur tête, dans leur corps. Et je le disais tout à l'heure, au milieu de ce qu'ils vivent, si bien que vous écrivez un roman, Tom Crew, où ni le combat politique, ni la création littéraire n'est en dehors de la vie. C'est au milieu de ce qui est vécu que les choses s'élaborent. Est-ce que vous pourriez nous. Vous avez parlé de John et Henry. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous a permis le point de vue des deux personnages de femmes? Qu'est-ce que ça apporte justement en complexité? quel point de vue ça permet d'éclairer.
J'ai
toujours voulu que ce roman parle autant des femmes que des hommes.
Qu'il montre
que cette bataille pour ce qu'on appelle aujourd'hui les droits des gays, les droits homosexuels, était aussi parallèle à d'autres luttes et d'autres causes, en particulier pour les droits des femmes. Et que parfois, ces combats se croisaient de la même manière que les féministes plus tard, dans les années 70, ont découvert qu'il y avait clairement des croisements avec la cause aussi des gays et des homosexuels. Il y a aussi des différences. Il y a aussi des points de tension, des conflits entre ces causes. Et donc, je voulais on est toujours le récit des femmes et les combats des femmes, leur histoire, qui soit en quelque sorte l'ombre du récit principal, de celui de la lutte pour les droits des hommes homosexuels. Qu'il suffise quelque part de retourner la pièce pour voir que sur l'autre face, il y a un autre combat qui se mène en parallèle. Et je voulais montrer aussi que les défis qui se posent aux femmes et les préjugés qui se posent aux femmes sont aussi particuliers et que la vie d'une femme et d'une lesbienne à l'époque était différente de celle d'un homme homosexuel. Et que même si un homme en tant que gay, pouvait être confronté à des préjugés, pouvait être désavantagé. Il pouvait toujours exercer un pouvoir patriarcal et avoir toujours un avantage sur les femmes. Je voulais montrer ça en particulier dans la relation entre John et sa femme Catherine, que John, dans ses efforts extrêmement nobles pour promouvoir les droits des hommes homosexuels et vivre la vie qu'il a envie de mener, peut aussi piétiner les droits de son épouse et les saper. J'ai toujours voulu traiter cette complexité et montrer qu'il y a toujours plusieurs facettes au problème.
Having a good cause doesn't necessarily make you a good person.
Une bonne cause ne fait pas forcément de vous une bonne personne.
Or that in a society which is structured on
que dans une société qui est structurée sur l'homophobie, un homme homosexuel peut être déformé par cette société et devenir quelqu'un de mauvais et parfois contre sa volonté. Et c'est vraiment justement le prix terrible que fait payer cette société aux hommes homosexuels.
Je disais tout à l'heure que tout ce texte Tom Cruise est baigné d'une sorte de brouillard, de moiteur. Je voudrais qu'on en écoute une brève description, pour savoir quel a été cet outil littéraire pour vous.
Il était maintenant près de 20h. L'air, moite et odorant, semblait collé au visage de Henry. Il s'essuya les joues dans la manche de son manteau. Le ciel était jaunâtre, là où il n'était pas noir. Des filets de fumée se détachaient sous les réverbères comme des bandages déroulés de leurs blessures. Le trottoir était jonché d'une fine couche de fange où ses chaussures laissaient des traces. Au coin de la rue d'Edith se trouvait une taverne, dont la note conviviale paraissait fausse et fatiguée, comme sortie d'une boîte à musique d'une autre époque. Il se frotta les joues à nouveau. Il était nerveux. Il ne voulait pas entendre le témoignage de Jacques. Tout était plus facile à l'état de contour, de projection, d'accord tacite. Mais un contour est inutile. On ne peut absolument rien faire avec.
On entend un extrait de La Vie Nouvelle lu par Léa Weisruch et on entend la manière dont très rapidement dans un seul paragraphe Tom Cruise vous passez de la description d'un air moite, d'une rue, d'un brouillard à une question très précise justement sur la façon dont les choses ne se dessinent pas encore, que les contours sont insuffisants, que le monde auquel aspirent les personnes que vous suivez dans votre roman n'est pas encore advenu, il s'est pas encore complètement réalisé, donc on peut pas le voir. On est dans le brouillard, bref. On sent que c'est un outil littéraire. Comment est-ce qu'il est venu? Comment vous l'avez nourri? À quoi ça vous sert?
Londres était très célèbre pour son brouillard au 19e siècle.
Ce
brouillard jaune, marron, extrêmement épais, absolument affreux, qui faisait que parfois il faisait quasiment noir en pleine journée.
It's a cliché.
C'est un cliché quelque part de décrire une journée pleine de brouillard dans l'Angleterre victorienne. C'est très Sherlock Holmes. C'est presque le risque de jouer un petit peu trop là-dessus, sur ce cliché. Donc j'essaie d'utiliser le brouillard d'une manière très 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 précise, de le limiter à certains chapitres. Mais je ne voulais pas créer... Je voulais en tout cas l'utiliser pour montrer quelque chose de très enfermant et aussi pour mettre en lumière une scène bien particulière que je savais vouloir dans le roman depuis longtemps. Deux hommes sortent de chez eux et sortent dans la rue et s'embrassent en public. Parce qu'ils sont enveloppés justement dans ce brouillard et dissimulés aux yeux du monde. Ça me semblait une métaphore tout à fait parfaite. Le seul moyen pour ces hommes de s'embrasser en public et de vivre leur vie en public, c'était d'être ainsi complètement dissimulés à la vue. Ça semblait symboliser ça. Ce problème tout simple.
Vous touchez du doigt quelque chose d'important dans le texte, à savoir ce qui se vit à l'intérieur de la maison et ce qui se vit dans l'espace public, tout ce que vous travaillez de l'intériorité et de l'extériorité, Tom Crew, dans le livre. À ce moment-là, une des grandes idées politiques ou de rapport aux mœurs de l'Angleterre, c'est l'idée qu'il y a une incapacité, une incompatibilité entre la vie domestique et la vie homosexuelle. Et c'est ça qui peut-être peut bouger, vous le disiez tout à l'heure, dans la vie nouvelle, c'est que une vie à la maison, une intimité, une vie de tous les jours peut se vivre avec un partenaire du même sexe. Finalement, le brouillard permet de, oui, en effet, d'envelopper cette question-là.
Oui, je voulais que ce soit un roman qui soit tendre, aussi bien que sexy.
We saw the life that these men wanted to live.
On a vu la vie que ces hommes avaient envie de vivre. On voit là-dedans que dans cette scène, qu'il n'y a pas que du malheur et de la fermeture, il y a aussi cette possibilité de trouver une forme d'intimité, une forme de bonheur. Le problème, c'était comment sortir ça du monde domestique, de la sphère domestique, pour le vivre au grand jour. Et tout ça s'appuie sur les lectures que j'ai faites du véritable livre, celui qui a été écrit sur les récits de vie d'hommes homosexuels à l'époque. Très souvent, dans ces témoignages, ils décrivent des relations, des histoires amoureuses, disant souvent qu'ils n'ont pas envie d'être hétéro, que la seule envie qu'ils ont, c'est de pouvoir vivre ces histoires au grand jour. Et dans ce roman, j'essaie de saisir justement les tensions de ces histoires, cette possibilité de venir investir l'espace public.
Justement, vous parlez de la dimension sexy, on pourrait dire érotique ou charnelle de ce livre-là. C'est une part importante. Est-ce que ça vous a donné du fil à retordre ?
Je crois que la difficulté quand on écrit une scène de sexe, c'est la même que pour n'importe quelle scène.
It has to be about precision. It has to be about finding
précis.
The right rhythm of words.
Il faut trouver le bon rythme des mots.
The right mood.
Il faut trouver la bonne atmosphère.
And I think often maybe writers get themselves into trouble writing about sex.
Mais parfois, les écrivains se mettent en difficulté quand ils écrivent des scènes de sexe parce qu'ils les traitent différemment des autres scènes du roman. Ils n'utilisent pas leurs compétences habituelles, leurs antennes d'écrivains ordinaires et se projettent dans un espace complètement différent.
Alors
je pense que les scènes de sexe répondent très bien quand on a le même soin, la même attention et vous le rendent bien. Si vous avez envie de pouvoir montrer un livre, évidemment, à votre grand-mère, après l'avoir écrit, bon, ça peut être parfois un peu gênant avec certains membres de la famille, mais ça paraissait tout à fait nécessaire parce que, comme je l'ai dit plus tôt, c'est un livre qui parle du désir, de cette envie de comprendre et d'explorer le sexe. Donc il fallait du sexe parce que c'est un moyen de comprendre les personnages et de comprendre ce qu'ils essaient de faire, et je pense que ce n'est vraiment pas pour rien.
Et justement, ça rejoint ce que vous disiez qu'ils défendent à l'époque, à savoir replacer le sexe au milieu d'autres activités humaines, de le détacher d'un aspect très particulier de la vie humaine qui demanderait aussi qu'on l'écrive de manière très particulière. En fait, vous faites la démonstration que le sexe est pris dans le reste de la vie de vos personnages, Tom Clou.
Oui, absolument.
C'est tout à fait crucial pour moi que ce ne soit pas quelque chose qui soit hermétiquement distinct. J'ai d'ailleurs été surpris d'une certaine façon par les réactions que j'ai eues dans certains pays qui ont prêté énormément d'attention à ces scènes de sexe. Je pensais que c'était juste un élément essentiel de l'histoire. Je ne pensais pas que ça générait encore une attention particulière. C'est vrai que le premier chapitre est assez spectaculaire, mais je pense qu'en général, c'est quelque chose qui doit être là et qui doit faire partie de la texture quotidienne de la vie. C'est ça, la vie humaine.
Vous parlez un petit peu des réactions, et c'est peut-être pas évident de vous demander votre propre réaction au succès rencontré par ce texte dont je disais qu'il était très important, et à Londres et à New York, dans le monde anglo-saxon. Qu'est-ce que ça vous a raconté, en dehors, j'imagine, de la joie ?
Oui, alors beaucoup de joie, hein, très clairement. Parce que l'idée de ce roman, je l'ai eu il y a 10 ans. Donc ça a pris énormément de temps. J'espère que le succès du livre dit quelque chose de la qualité de l'écriture. J'espère que c'est un bon récit, une bonne histoire et que c'est agréable à lire. Mais je pense que ça parle aussi sans doute de nos angoisses contemporaines. Ce que je disais sur la quête d'un monde meilleur qui nous est familière à tous. Mais aussi cette angoisse de voir que le progrès social peut s'arrêter et même peut revenir sur ses pas. On voit qu'aujourd'hui, aux États-Unis, des livres qui parlent de l'homosexualité peuvent être interdits un peu partout. Donc malheureusement, je crois qu'il faut continuer la lutte.
La vie nouvelle, merci beaucoup Tom Clou d'avoir été avec nous. Traduction de l'anglais par Étienne Gomez, tout ça aux éditions Bourgois. Merci beaucoup Marguerite Capelle pour l'interprète.
Merci beaucoup.
France Culture, le Book Club, Marie Richeux.
Il est toujours 15h50 et on est toujours mercredi. On a donc rendez-vous avec vous, Mathilde Wagman. Bonjour.
Bonjour, Marie.
Aujourd'hui, vous nous parlez du grand retour de personnages qui vous sont chers.
Oui, Marie, ils sont de retour, les plus redoutables pirates des mers du Sud, la terreur des cinq océans, la pire canaille ayant jamais navigué. J'ai nommé les chiens pirates. Ce sont les héros d'une série d'albums signés Clémentine Mélois et Rudy Spiesser, dont le quatrième volet vient de paraître à l'École des loisirs. Peut-être le nom de Clémentine Mélois vous est-il familier? Elle est membre de l'Oulipo, elle écrit aussi des livres pour adultes et mène en parallèle un travail de plasticienne. C'est ensemble, à quatre mains, intervenant tous les deux à la fois sur le texte et sur les images, qu'ils ont imaginé cette bande de sept chiens, certes pirates, mais des pirates un peu falots qui ne pensent qu'à manger et à dormir et sont somme toute fort peureux. Dans le premier opus, on les avait découverts tentant de piller un trois-mâts tenu par des fillettes avec qui ils apprenaient en réalité à s'amuser. Dans le deuxième volet, ils partaient à la recherche d'un trésor au pays des glaces. Et dans le troisième, ils étaient aux prises avec un flibustier nommé Barbechat. Car les chiens pirates, c'est avant tout une ode au roman d'aventure.
Et alors, qu'est-ce qui vous a plu dans ce nouvel opus ?
Eh bien, d'abord, ce qu'il a en commun avec les précédents. Chaque aventure se déroule le temps d'une semaine, chaque chapitre est le récit d'une journée, du réveil des chiens à leur coucher, du lundi au dimanche. L'adulte qui lit le livre à un enfant peut ainsi le faire au rythme d'un chapitre par soir, même s'il est assez difficile de convaincre un enfant de s'arrêter à la lecture d'un seul chapitre. Au-delà de cette dimension pratique, on se souvient aussi que Stevenson ou Jules Verne étaient de grands feuilletonistes, premier hommage en creux donc. Deuxième dimension immédiatement séduisante, le plaisir du vocabulaire. Qui dit piraterie, monde de la marine, dit terminologie dédiée. Les sept personnages principaux sont ainsi désignés par leur fonction dans le navire. Grâce aux chiens pirates, on sait à quels emplois précis sont occupés le cambusier, le timonier, le calfa, le gabier, le moucheur, le canonnier et le mousse d'un navire, et on a un plaisir sans cesse renouvelé à prononcer ces noms. Dans ce quatrième opus, ce plaisir est redoublé par les dessins. Je pense notamment à cette planche en ouverture de l'album, par exemple, qui représente un cimetière de bateaux, épave de baleiniers, canots, frégates et caravelles déglinguées au rendez-vous.
Et puis, qui dit roman d'aventure, Mathilde, dit aussi péripéties et personnages hauts en couleur, ça a dû vous plaire aussi.
Absolument. L'intrigue de ce quatrième volet repose ainsi sur la rencontre des chiens pirates avec un mouton irlandais qui répond au nom d'Alfred MacGuffin, qui compte sur les chiens pour lui ramener le pavillon noir d'un vaisseau fantôme, et ce, pour sauver son honneur, terni par ses deux ennemis, MacBook et MacNugget. Pour relever le défi, les chiens devront résoudre l'énigme posée par un morse, gardien de phare, aller à la rencontre du maître des océans en la personne d'un minuscule bigorneau qui, pour dire au revoir, dit « belle journée », se prêter au jeu des épreuves proposées par la reine des abysses, une sirène altière trônant, je cite, « sur un coquillage de la plus belle nacre, tout scintillant de chatoyance superbe ». Après tout cela, les pirates finiront par mener l'assaut du fameux vaisseau, tenu par un fantôme dont seule la chute nous révélera l'identité, ce que je ne ferai pas ici. Vous l'entendez, j'espère, dans ce résumé, l'histoire propose différents niveaux de lecture. Le récit fourmille de références contemporaines, du livreur de chez Mammouth au gardien de phare poseur d'énigmes, dans lequel, pour ma part, je n'ai pas pu m'empêcher de reconnaître le père Fouras de Fort Boyard. Un art du détournement et du clin d'œil qui évoque le Goscinny d'Astérix, maître dans l'art de s'adresser aux adultes et aux enfants d'un même mouvement.
Alors, pour conclure, Le Chien des Pirates, c'est donc, selon vous, une ode à la littérature.
Oui, et j'ai repensé à cet autre livre de Clémentine Mélois qui s'appelle Dehors la tempête, une déclaration d'amour non pas tant à la littérature, notion écrasante, qu'au livre ou à la lecture plus simplement. Je vous en cite un extrait. Tout me ramène à l'océan, alors même que je nage si peu que j'ai le mal de mer et le vertige des étendues sans fin. Je n'aimerais pas être marin, mais je ne connais pas de plaisir plus grand que celui de lire des histoires d'aventures maritimes à l'abri et au sec sur la terre ferme, tandis qu'au dehors, la tempête, c'est-à-dire l'infini, fait rage inutilement. Melville, Conrad, Monfred, Faulkner et Lotti, Stevenson, Macorlan, Jules Verne, Defoe, London, Hemingway, sans se mouiller, sans être obligé de tenir la barre et de maintenir le cap, du crachin plein la figure. Je crois que se loge au creux des aventures des chiens pirates toute la force de cet amour-là.
Eh ben dis donc, on rappelle le titre de l'album ?
Ça s'appelle « Les chiens pirates et le vaisseau fantôme » et il a paru à l'École des loisirs. Je signale aussi que Rudy Spiesser sera en dédicace à 16h30 ce samedi au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis, qui se tient à Montreuil jusque dimanche, qui a ouvert aujourd'hui. On a appris par ailleurs ce midi que le prix de la Pépite d'or, remis chaque année par un jury de critiques littéraires dans le cadre de ce salon, a été décerné à « Nous traversons seront des orages », un roman pour adolescents signé Anne-Laure Bondou, paru chez Gallimard Jeunesse. On prendra le temps la semaine prochaine de vous parler plus en détail de ce livre-là.
Le rendez-vous est pris. On peut réécouter Lecture Jeunesse sur franceculture.fr. Merci Mathilde Lagman. À 15h56, c'est encore l'heure de jouer au grand jeu des pages musicales. Je rappelle le principe, vous êtes en train de lire, vous découvrez dans un paragraphe n'importe lequel l'évocation d'un air musical, n'importe lequel aussi. Vous nous l'envoyez ou bien via l'Instagram du Book Club de France Culture ou bien via l'adresse suivante, lebookclub@radiofrance.com. Aujourd'hui, c'est Margot qui joue avec nous. Elle a trouvé un extrait dans un livre qui s'appelle Alain Pacadis, face B. C'est un livre de Charles Salles qui est apparu à la Table Ronde en 2023. Avec Lauride, il s'est découvert un jumeau. Il a tout lu sur lui. Il connaît sa vie sur le bout des doigts. Le père de Lou Alan Reed, Sidney Rabinovitch, avait abandonné son nom juif pour bénéficier de l'anonymat WASP et new-yorkais. Malheureusement pour Sidney, Lou ne partageait pas son goût pour la norme straight et l'homosexualité de son fils l'écœurait tant qu'il lui avait fait subir une thérapie de conversion à base d'électrochocs. L'histoire de Lou Reed le fascine. L'obsession pour la norme et l'uniformité des parents, les électrochocs, les suicides, ça lui parle. D'autant plus que Lou n'est pas beau gosse, pas comme Morrison ou Brian Jones. Et pourtant, il a quelque chose. Il lui plaît. Il change la face du disque. Géraldine entre dans la pièce au moment où Heroine commence. « Cause it makes me feel like I'm a man when I put a spike into my vein ».
Try for the kingdom if I can, 'cause it makes me feel like I'm a man when I put a spike into my vein and I tell you things aren't quite.
Au son aujourd'hui, c'était Olivia Arnet. À la réalisation, Vivien Demeyer. Un grand merci à toute l'équipe du Book Club. Je commence vraiment par Léa Weissgruss aujourd'hui. Jeanne Léos, Mathilde Wagman, Anouk Delfino, Oriane Delacroix, Marianne Chassor, Didier Pinault et Alexandre Alaï-Begovic. Vous pouvez réécouter le Book Club sur franceculture.fr et pourquoi pas vous abonner au podcast via l'application Radio France. Très bel après-midi sur France Culture.